l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 1er. Après, on ira dans l'Évangile de Luc, les textes qui nous invitent à regarder vers la croix, la crucifixion de Jésus. Jean, chapitre 19, verset 1er. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve rien, point de crime en lui !» Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui répondit point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce de toi-même que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi !» Mais ils s'écrièrent « Hôte, hôte, crucifie-le » Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils le prirent donc Jésus et l'emmenèrent. On va dans l'évangile de Luc, chapitre 23. On prend la suite dans un autre évangile, dans un autre récit de l'évangile. Il n'y a pas quatre évangiles, il y a un évangile rapporté de quatre manières. L'évangile de Jean, chapitre 23, verset 32. L'évangile de Luc, pardon. L'évangile de Luc, chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Verset 44. Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui est arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui est arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné, depuis la Galilée, se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Amen. Lorsque nous regardons un spectacle d'artistes qui se succède, la présentation est importante. Elle va avoir une influence. Le présentateur va présenter l'artiste de cette manière. Il a fait ceci, il a parcouru telle ville, il a eu telle nomination, j'ai nommé, voici. Et nous, on va regarder l'artiste avec ce que le présentateur aura dit. On sera forcément influencé par la manière dont il a été dit. Si on nous a fait de grandes éloges sur la personne, on aura tendance aussi à le regarder avec admiration. La crucifixion de Jésus, au verset 48, elle est évoquée comme un spectacle. Quel drôle de spectacle! Mais c'est comme ça que c'est dit. Les Romains avaient fait de leur supplice des spectacles. La crucifixion, les arènes, les combats de gladiateurs, c'était des spectacles. Il faut se rappeler aussi que pendant longtemps, en France, les exécutions étaient publiques. Alors, je ne sais pas si on pouvait parler de spectacle, ça avait surtout un effet dissuasif, mais enfin, c'était la réalité. Celui qui est au centre de ce spectacle, c'est Jésus. Ce que l'on perçoit lors de sa crucifixion, c'est que Jésus est perçu différemment. C'est la confusion. Il y a ceux qui voient en Jésus un innocent qui subit une injustice. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils disent « c'est pas normal, je pense à ces femmes qui pleurent ». Il y a ceux qui doivent se dire « oulala, vu la passion que ça dégage, lui, ça doit être un grand criminel ». Il y a ceux qui pensent comme ça, voyant les choses de loin. Et il y a ceux qui se disent « lui, ça devait être un révolutionnaire et il a échoué ». Les Romains avaient tendance à penser de cette manière-là. Et il y a ceux qui pensaient ou qui voulaient penser que c'était un imposteur. Il y a ceux qui disaient « c'est un prophète, il a fait du bien, mais finalement il a échoué ». Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs, nous espérions que... Enfin, il y a toutes sortes de regards qui sont là. Et finalement, peu de gens ont le bon regard au moment où Jésus est crucifié. Peu de gens comprennent ce qui se passe. Peu de gens comprennent qui est Jésus, finalement, et ce qu'il est en train de faire. C'est ce que nous dit le livre d'Ésaïe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Comprenons bien, lors de la crucifixion de Jésus, beaucoup de gens ont un regard différent, mais bien, pour ne pas dire personne, ne comprend réellement ce qui se passe. Mais le regard de la crucifixion de Jésus peut changer et doit changer lorsque Jésus nous est présenté de la bonne manière. Plusieurs personnes ont parlé de Jésus et ont dit « voici ». Et je voudrais m'arrêter là-dessus. Parce que lorsqu'on retient tous ces « voici » et qu'on les met les uns après les autres, notre regard sur l'œuvre de la croix change. Dans le texte que nous avons lu dans l'évangile de Jean, à un moment donné, Pilate va faire avancer Jésus. Et il va dire, voici l'homme. Voici l'homme. Pilate avait compris que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus et qu'ils voulaient le crucifier. Il a vite compris que Jésus n'était coupable de rien, si ce n'est de son succès, et que les Juifs le jalousaient. On voit bien qu'il a essayé de se débarrasser de l'affaire Jésus. Alors il a tout essayé. Il a essayé de faire preuve d'autorité. Mais il verra que, en voulant faire preuve d'autorité, le tumulte augmentait. Quand il apprend que Jésus est de la Galilée, il essaye d'envoyer l'affaire à Hérode. Mais une heure ou deux heures après, l'affaire lui revient. Hérode, il est tout content. Il a vu Jésus. Après, il le renvoie vers Pilate. Il va essayer de s'en sortir avec une coutume. Il y avait une coutume qui fonctionnait à la période de Pâques, où le peuple avait la possibilité de libérer un prisonnier. Alors Pilate s'est dit, je vais leur mettre Barabbas. Barabbas, personne ne pouvait le voir. Il était détesté, le fameux Barabbas. Enfin Jésus. Et là, il se dit, logiquement, ils vont choisir Barabbas. Sauf que, surprise, étonnamment, et c'est libère Barabbas, et c'est crucifie Jésus. Il ne s'en sort pas. Alors il va essayer de les contenter avec le bâton. Il va faire frapper Jésus. Il va le ridiculiser. Il va le singer en roi. Il va essayer un petit peu de les calmer. Ça ne fera rien. Et le refrain reprend toujours. Crucifie, crucifie, crucifie-le. Et finalement, Pilate, à un moment donné, dira, voici l'homme. Voici l'homme. Sur quel ton il le dit quand il dit voici l'homme? Jésus est là avec un manteau de pourpre, battu, déjà malmené, couvert de sang. Il a déjà pris des soufflets, des coups. Je crois que Pilate le dit sur un ton du mépris. Voici l'homme pour lequel vous avez tant peur. Voici l'homme que vous voulez abattre. Regardez à quoi il ressemble. Il y a un ton de mépris sur la parole de... Voici l'homme dont vous avez peur, que vous redoutez. C'est de lui que vous avez peur. C'est dit sur ce ton-là, certainement. Mais je voudrais dire quelque chose. Pilate ne saisit pas la portée de ce qu'il déclare à ce moment-là. Parce que en disant « voici l'homme », Pilate ne se trompe pas. Car malgré les apparences, malgré les blessures, malgré que Jésus, quelque part, est bien affaibli, il est bien l'homme de la situation. Il est bien celui, il est bien l'homme que Dieu a désigné. Je pense à cette prédication de l'apôtre Paul à Athènes, où il dira que Dieu invite les hommes à se repentir et à se tourner vers l'homme que Dieu a désigné. Il est bien l'homme que Dieu a cherché. Dans Ézéchiel chapitre 22 ou 23, il est dit que Dieu cherche un homme et il n'en trouve point. Mais il l'a trouvé dans la personne de Jésus. Il est bien l'homme de la situation parce qu'il est le seul qui a pu rester sans péché. Il est le seul qui s'est préservé, le seul qui pouvait dire « le diable, il n'a rien à moi », le seul qui pouvait dire « j'ai triomphé du monde ». Il était vraiment l'homme de la situation parce qu'il est le seul homme qui a pu préserver son cœur du péché. Et parce qu'il a pu préserver son cœur du péché, sa nature du péché, il était et il pouvait prendre notre place. Il pouvait servir de substitution à notre place. Il était vraiment l'homme de la situation. Je vous invite à considérer la croix, ce spectacle autrement. Rappelez-vous toujours quand vous lisez le message de la croix, rappelez-vous cette déclaration de Pilate, voici l'homme, mais voici l'homme de la situation, celui qui pouvait porter nos péchés, celui qui pouvait porter tes péchés, celui qui pouvait prendre ta condamnation sur la croix. Pilate a aussi ajouté quelque chose, et je voudrais ajouter un deuxième voici. Un petit peu après, vers la fin, quand il le livre, il dit « Voici votre roi ». Jean, chapitre 19, verset 14. Les Juifs, vous savez, ils ont essayé de faire peur à Pilate en lui disant « Il se fait roi ». Ça veut dire peut-être il veut renverser César. Pilate a certainement eu peur sur le moment, mais il a vite compris que Jésus n'était pas du tout un roi menaçant. D'ailleurs, quand il questionnera Jésus, Jésus dira « Mais mon royaume n'est pas de ce monde ». Et Pilate a bien vite compris qu'ils avaient dit ça pour essayer de lui faire peur. Les Juifs, pourquoi ils veulent crucifier Jésus? Non pas parce qu'il se déclare roi, mais ils veulent le crucifier parce qu'il se déclare fils de Dieu. D'ailleurs, à un moment donné, ils sont obligés de lui dire. Et c'est pour ça que d'ailleurs Pilate prend peur. C'est qu'il a bien compris que voilà, ça touche le cœur de leur foi et Jésus se déclare fils de Dieu, il se déclare le Dieu fait homme. Et ça, c'est pour ça qu'ils veulent le crucifier, même s'ils mettent un petit peu en avant. Et sur quel ton ils présentent Jésus, voici votre roi, sur le ton du mépris. Jésus a une couronne d'épines, Jésus a un manteau écarlate de pourpre, complètement abîmé et sale. Il dit, voici votre roi. Là aussi, c'est le mépris. Ils se moquent. C'est de la provocation. Et même si Pilate écrira sur l'inscription qui sera au-dessus de la croix, Jésus le roi des Juifs, parce qu'il fallait mettre le motif pour lequel la personne était crucifiée. Jésus, il est singé en roi. Mais là aussi, je me permets de dire et j'ajoute, Pilate ne mesure pas la portée de sa déclaration. Parce que c'est vraiment notre roi. C'est vraiment le roi des cieux. C'est le roi qui vient jusqu'à nous. Les prophètes l'avaient annoncé. Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient. C'est le petit d'une ânesse. Les prophètes avaient annoncé. Alors un roi qui vient d'une toute autre manière. Mais c'est vrai que c'est un roi dont le royaume n'est pas de ce monde. Mais c'est vraiment notre roi, le roi qui vient opérer la délivrance des captifs. La croix, vous savez, ça a l'apparence d'une défaite. On a l'impression que Jésus perd. Mais il faut le regarder autrement. C'est le roi qui est en train de venir établir son règne. c'est une éclatante victoire. C'est Jésus qui est en train de livrer les dominations en spectacle. Il y a un texte qui nous dit qu'il les a livrées en spectacle et ça se passe là. Jésus est en train de remporter une victoire. Jésus est en train d'établir son règne. Jésus va permettre et ouvrir les portes de son règne pour que les gens puissent y rentrer. La Bible nous dit que quand Jésus est mort, le chemin du ciel s'est ouvert, le voile s'est déchiré. Pour nous, Jésus établit son règne. Et alors c'est vrai qu'on dit qu'il faut des lunettes spéciales pour voir Jésus en roi. C'est vrai, mais l'Esprit de Dieu est capable de le faire. Rappelez-vous la prière, on ne l'a pas lue, mais rappelez-vous la prière du brigand qui est sur la croix. Qu'est-ce qu'il dit ? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Comment ce brigand a-t-il pu voir un roi ? Il faut une révélation, il faut une action de l'Esprit. Mais ce brigand a compris que Jésus entrait dans son règne. Et il faut comprendre que la croix, c'est Jésus qui établit son règne. Elle peut l'établir aussi dans votre cœur. Il faut absolument regarder la croix sous cet angle-là, en considérant que Jésus établit son règne, que Jésus triomphe, que Jésus dépouille les dominations et il les livre en spectacle. Je voudrais aussi présenter un autre voici, et il est important ce voici quand on regarde l'œuvre de la croix. Alors ce voici n'a pas été dit à ce moment-là, il a été dit 3 ans plus tôt. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus qui allait commencer son ministère terrestre, qu'est-ce qu'il dira par 2 reprises ? On voit ça dans l'évangile de Jean au verset 29. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Vous connaissez ceci ? Cette présentation, je le dis bien, elle a été faite bien plus tôt. Mais elle nous amène aussi à regarder la croix différemment. Quelqu'un qui n'est pas initié au texte biblique, il aura du mal à comprendre une telle affirmation. Hein. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais un juif, il comprend tout de suite ce que ça veut dire. Parce que les juifs avaient été enseignés, éduqués depuis des siècles. Chaque matin en Israël et chaque soir, un agneau était sacrifié. Et ça rappelait que le pardon des péchés était donné par un sacrifice. Il s'obtenait par ce moyen-là. Et même si c'était que du provisoire, même si c'était que pour un temps du temporaire, les Juifs savaient que le pardon s'obtenait par un sacrifice. Et l'animal par excellence, c'était l'agneau. Celui qu'on retrouve dans quasiment tous les sacrifices, c'est l'agneau. Les Juifs comprenaient cela. Et puis, cette déclaration faisait remonter toutes sortes de choses. C'est l'agneau pascal. Ça évoquait toutes sortes de choses. Les Juifs comprenaient tout à fait cette déclaration. Et Jean-Baptiste, en présentant Jésus ainsi, il annonce quoi ? Déjà, il pointe vers l'œuvre de la croix et qu'il annonce que Jésus serait le prochain et finalement le dernier des sacrifices parce que celui-là, il est excellent, parce que celui-là, il est parfait. Je ne suis pas sûr que Jean-Baptiste ait réalisé la portée de sa déclaration. Les prophètes, des fois, disaient des choses et ils ne saisissaient pas toujours ce qu'ils déclaraient ou jusqu'où ça allait. Mais il est certain qu'il fut inspiré par l'Esprit de Dieu pour affirmer une telle chose. Et il est absolument indispensable. Lorsque je regarde le spectacle de la croix, je mets toujours des guillemets, il est absolument indispensable de se rappeler cette déclaration. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'œuvre de la croix, la mort de Jésus sur la croix. On ne prend pas la vie à Jésus. C'est Jésus qui la donne. C'est Jésus qui s'offre pour le salut des pécheurs. Les Juifs savaient qu'on obtenait le pardon des péchés. Il fallait offrir un animal. C'était quelque chose de provisoire. Il fallait le renouveler parce que ça n'agissait pas dans la conscience. Mais Jésus nous fait entrer dans quelque chose de nouveau. Jésus donne sa vie et il est l'agneau divin sans péché qui peut prendre parfaitement notre place. Et il est celui qui nous lave de tout péché. La mort de Jésus n'est pas un accident. Elle est quelque chose qui est programmé, et programmé même avant la création du monde, puisque Pierre nous parle de l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Et Jésus a donné sa vie, il s'est offert en sacrifice, Et la résurrection, elle prouve que son sacrifice, il a été agréé, qu'il a été accepté par Dieu, que oui, tout est bon, tout est valide. Et désormais, tout pécheur qui vient et qui dit « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, je suis mauvais. Seigneur, j'ai besoin que tu me laves de tout péché. Je viens à toi, je considère, je crois que Jésus a donné sa vie. » Tout pécheur qui fait cette démarche, il a la possibilité d'être lavé, d'être purifié dans sa conscience. Il a la possibilité d'avoir un cœur changé. Il a la possibilité de vivre une nouvelle vie nouvelle. Je crois que c'est bon de se le rappeler. Et puis dans Hébreux chapitre 10, je me permets de le lire. Hébreux chapitre 10, un autre voici. Hébreux chapitre 10, verset 3. Mais le souvenir des péchés renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit : Voici, ou me voici, je viens. Dans le rouleau de l'œuvre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord : Tu n'as voulu, et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, dit ensuite : Voici, ou me voici, je viens pour faire ta volonté. On ne sait pas quand est-ce que ces paroles ont été rapportées, annoncées. Quand est-ce que Jésus a dit « Me voici » Ça s'est fait dans l'éternité, manifestement. Ça s'est fait probablement avant d'entrer dans le monde. Mais elle caractérise l'esprit de Jésus, l'état d'esprit de Jésus. Dès le début, dans son parcours terrestre, lorsqu'il fut tenté à Gethsémané, c'est toujours « Me voici » et bien sûr jusqu'à l'œuvre de la croix. Cette déclaration, elle a été entendue du Père Céleste, dans le monde céleste. Elle a été inspirée probablement dans le cœur de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais elle nous permet de comprendre que là aussi, la venue de Jésus ou la mort de Jésus, c'est pas Dieu qui a été dépassé par les événements. Ce n'est pas une histoire qui finit mal, mais c'est quelque chose de programmé. C'est Dieu qui a vu notre souffrance. C'est Dieu qui a vu ton péché. C'est Dieu qui a vu ton incapacité à pouvoir te changer. Alors il a dit, me voici, je viens. Et il est venu. Et il est venu jusqu'à nous. Il a pris des risques. Il a, quelque part, pendant un certain temps, il a mis de côté ses attributs divins. Il s'est exposé un peu plus à la tentation, puisqu'il nous a dit qu'il a pris un corps semblable au nôtre. Il a été tenté d'une manière extrême à Gethsémané. Mais il est allé jusqu'au bout pour pouvoir offrir sa vie et porter nos péchés. Quand on regarde l'œuvre de la croix, c'est vraiment important d'entendre ce « me voici ». Quand Jésus donne sa vie, c'est « me voici ». Jésus meurt et ressuscite. Mais rappelons-nous, c'est pour nous. C'est pour nous qu'il est venu. C'est vraiment indispensable de comprendre cela. Je voudrais terminer, mais quand on regarde l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection de Jésus, on peut ne rien capter. Et comme beaucoup de gens savent que Jésus est mort, ont peut-être vu le film, mais ne comprennent pas. Mais si vous avez ces voici qui sont là, qui résonnent, qui se placent, alors votre regard va changer. Voici l'homme, a dit Pilate, mais l'homme de la situation, l'homme sans péché qui pouvait prendre notre place, votre place. Voici le roi, voici votre roi, celui qui est venu établir son règne, celui qui a rendu possible la possibilité de changer de camp et de venir et finalement que Jésus puisse régner dans notre vie. Il faut le regarder en se rappelant, voici l'agneau. Jésus est venu et il sert de rançon pour le pardon de nos péchés. Il faut entendre le me voici. Jésus s'est offert librement, on ne l'a pas pris. On ne l'a pas forcé, on ne l'a pas poussé d'en haut là. Il est venu et il a offert sa vie. Si vous avez ce regard-là sur l'œuvre de la croix, alors les choses vont se débloquer. Et vous allez être comme ce centenier. C'est étonnant, l'œuvre de la croix. Mais je remarque qu'il y a des gens où le voile s'épaissit. Devant la croix, vous avez des gens qui deviennent encore plus aveugles. Et de l'autre côté, vous avez des gens dont les yeux du cœur s'ouvrent, notamment ce centenier. Je pense aussi à Joseph d'Arimathée, Nicodème, qui était là et à un moment donné, il se positionne. Si je reviens sur le centenier, hein, il capte à un moment donné, il dit, mais c'est pas possible, assurément, il est le Fils de Dieu. Rappelez-vous le brigand sur la croix. Le brigand sur la croix, au départ, il insulte Jésus avec l'autre. Ils insultent Jésus, ils le méprisent. Et puis à un moment donné, les yeux du cœur s'ouvrent. Et là, il dit, souviens-toi de moi. Quand tu viens là dans ton règne, vous voyez, il y a quelque chose qui a changé. Si vous entendez ces voici dans votre cœur, votre regard va changer. Comprenez, la croix, ce n'est pas un accident de parcours. Ce n'est pas un échec. C'est Dieu qui vient jusqu'à nous et qui prend notre place. Jésus, il a pris la place, ta place, sur le bord de la croix. La Bible dit que nous sommes des pécheurs. Nous sommes mauvais. Le meilleur d'entre nous est comme un buisson d'épines. Et le seul moyen d'être débarrassé de nos péchés, c'est de se tourner vers Jésus, vers celui qui est sans péché et qui a pris notre place. C'est lui qui peut nous laver. C'est lui qui peut purifier notre conscience. C'est lui qui peut changer notre cœur. Et c'est le seul qui peut nous faire entrer dans son royaume. Tournez-vous vers Jésus dans cet après-midi. On va courber nos têtes et on va prier.